présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Que Philippe il se soit bien rétabli. François se demande comment il va finir cette histoire et pas rester indéfiniment chez Philippe. Et puis, il faut qu'il retourne à Paris. Dès que Judith n'a plus de nouvelles de François, elle s'est inquiétée. Elle l'a téléphoné à son hôtel. On lui a dit qu'il est parti sans prévenir. et qu'ils allaient prévenir la police, elle dit « Je paye, laissez !» Elle est furieuse. Elle essaye de se renseigner au centre des cartes. Jean lui dit qu'il ne s'est pas servi de sa carte depuis plusieurs jours. Rien, le vide. Il ne s'est pas servi de sa carte. Il sait qu'il n'a rien acheté, même pas du pain, même pas se payer un transport. Elle se dit qu'il est peut-être mort. Alors, elle décide d'aller voir l'homme en noir dans la petite maison. Après son travail, elle y va. Elle sonne à la porte. L'homme lui a ouvert. Vous n'aviez pas rendez-vous. On ne peut vous recevoir. Elle lui dit, j'aimerais lui parler 5 minutes. Je vais voir. Et il la quitte. Il revient. Il veut bien vous recevoir. Venez. Mais c'est dangereux de venir comme ça. Il l'amène chez le vieil homme à l'étage. Entrez. Il entre. Elle ressort. Dit à Julie, vous pouvez entrer. Elle entre. Le vieil homme est assis dans un fauteuil près d'une cheminée allumée. Porte une robe de chambre bordeaux. Il demande, vous avez demandé à me voir? Elle lui fait, oui. Approchez-vous. Elle s'approche. Je vous écoute. Elle lui dit, je suis venu vous voir si savoir si vous n'avez pas des nouvelles de François Ducourt. Milieu me fronce ses sourcils. Elle lui dit, qu'est-ce que ça? Vous me dérangez pour ça? Vous croyez que j'ai pas assez de soucis comme ça pour m'occuper de cette chose? Et vous, vous n'avez pas assez de travail avec Serge, son père, et tout ce que vous avez à faire? Vous en voulez d'autres? Elle lui fait, je vous demande pardon. Il lui fait, il ne faut pas venir me déranger pour ce qui est de ce jeune homme. Non, je ne m'en suis pas occupé et nous n'avons pas encore les résultats des recherches. Continue. Je dois avouer, c'est risqué, si c'est lui, ce serait très ennuyeux. Il faudrait essayer. Revoir tout. Et lui aurait besoin d'une bonne formation. Mais si ce n'est pas lui, je ne dis pas qu'il faudrait peut-être l'éliminer pour simplifier les choses. Et puis il est très encombrant, ce petit jeune homme. Il fait beaucoup de bêtises. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous demande, c'est de ne plus vous occuper de ce jeune homme. Vous pouvez vous en aller. Elle lui dit, Merci. Et elle le quitte. François et Philippe sont partis en voiture. Ils visitent l'Espagne, le Portugal et même vont faire un petit parcours en Italie. Durant le voyage, ils deviennent de plus en plus intimes. François, souvent, pendant le trajet, en voiture, dort sur l'épaule de son ami. Il voit qu'il a beaucoup d'argent. Philippe paye tout. Des fois, François lui prend ses vêtements, ils ont la même taille à peu près. Il lui dit, comme ça, on est comme deux frères. Ils se font photographier ensemble. À l'hôtel, ils dorment dans mes lits. François lui dit, comme ça c'est mieux, on est toujours ensemble. François, malgré lui, est aussi attiré par lui. À force d'être près de lui, il apprécie sa gentillesse, et aussi son physique. François joue toujours l'enfant, lui demande des glaces, l'embrasse tout le temps, joue, rire, lui fait des farces. Et Philippe sourit de son côté enfant, bébé. Ça l'attendrit et l'attache plus à lui. Et malgré lui, François fait ça aussi pour endormir Philippe. Il veut l'avoir à sa merci. C'est inconsciemment qu'il le veut. Il a besoin de posséder quelqu'un et d'en faire ce qu'il veut. Et lui, il sait faire. Il suffit, c'est d'endormir la personne en jouant le bébé. Sont retournés à Biarritz. Philippe, une fois arrivé, entré dans la maison, demande à François. Est-ce que tu crois que Gilles et Frédéric sont toujours là? François lui dit, j'espère que non. Les jours passent. Ils reprennent leur habitude de rester près de la piscine. Pas de nouvelles de Gilles et de son ami. François dit, ils ont dû partir. Un matin, Philippe reçoit une lettre, la lit et dit à François, pour partir en Amérique, mon oncle est très malade. Tu viens avec moi? François ne peut retourner en Amérique parce qu'il risque de se faire prendre par la police et être reconnu par des connaissances à qui il doit de l'argent. Or, il dit, oh, si tu n'y allais pas, Philippe lui répond, c'est impossible. Et puis là-bas, j'ai ma fiancée. François est triste. Il a peur qu'il ne revienne plus. Philippe lui demande. Alors tu viens avec moi? Il lui répond. Je ne sais pas. Peut-être. Si c'est à cause de l'argent, je te fais pas de soucis. Pour ça, je te payerai tout. Merci. Je te donnerai une réponse plus tard. Dans l'après-midi, ils sont au bord de la piscine. Comme chaque matin, le domestique leur apporte les journaux. Journaux nationaux et du coin. François prend le journal de Paris. France Nouvelle, journal qui appartient à Franblanc. Il le feuillette comme ça. Tout à coup, il tombe sur un article de faits divers et il lit. On a retrouvé le corps de Christian X dans sa chaudière. Ça faisait des semaines qu'il avait disparu. Après enquête dans son entourage, la police a décidé de faire des recherches dans sa maison. Tout a été fouillé et semblait en ordre. Pas la moindre chose qui traînait. Mais un inspecteur s'est rendu compte que la chaudière ne marchait pas. Il est allé voir, comme ça. Il a vu qu'elle s'était bloquée. Que le système de sécurité s'était mis en route, mais pas dû à l'électricité, mais à une surcharge. Alors il a regardé à l'intérieur du four de cette chaudière, mixte, moitié charbon de bois, moitié électricité. Et là, il a vu dans le four des restes de corps humain qui avaient bloqué la chaudière. Parce que, en surcharge, parce qu'en plus, il y avait du bois et beaucoup de bois pour brûler le corps. Donc l'inspecteur a prévenu son supérieur qui a fait sortir le reste du corps. Il l'a fait amener au laboratoire pour les analyses. Là, ils ont retiré ce qui restait des os, un peu de chair, noirci, quelques cheveux et poils, l'intérieur du corps, les organes ont brûlé. Après analyse, on a découvert que c'était les restes d'un corps humain masculin, de race blanche, d'une de 22 à 25 ans. Puis d'après l'ADN et les signe ADN, on s'est aperçu que c'était le pauvre Christian X, disparu depuis quelque temps. Cette découverte a mis en émoi tous les amis et domestiques de ce brave jeune homme sans histoire, dont les parents habitent l'Afrique. Ils ont été prévenus de suite et sont effondrés. La police continue l'enquête et mis sous scellé les biens du mort. Pour le moment, il n'y a rien. Elle n'a rien trouvé. Elle n'arrive pas à faire son emploi du temps ces derniers jours ou semaines. L'emploi du temps de la victime vivant. Elle vivait seule. C'est pas facile. Surtout que les domestiques ne restaient pas chez lui. Quant à ses amis, il ne l'avait vu que depuis quelque temps. Il arrivait souvent d'avoir besoin de solitude. Jeune homme sans histoire, sans problème, ni fiancé, ni autre. Alors, une histoire sentimentale, crapuleuse. On continue à faire des recherches dans la maison pour chercher des empreintes du criminel et peut-être son super ADN. François est effondré, ne peut plus se servir de la carte de crédit. parce qu'il risquerait d'être pris. Philippe le voit tout pâle, il lui demande « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien, je suis un peu fatigué. » Philippe lui dit « Tu devrais aller te reposer. » Mais il sent François sérieusement troublé. Il lui dit « Si tu as des ennuis, tu peux me les dire. Tu sais, je peux tout comprendre. » François se dit qu'il pourrait lui dire tout. Il est sûr que Philippe le comprendrait, mais n'ose pas. Avouer un crime, ce n'est pas facile. Alors il dit, j'aimerais c'est que tu ne partes pas. Philippe lui dit, si ça te fait tant de peine que je parte, tu peux venir avec moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu refuses mon offre. Nous sommes bien allés faire un voyage ensemble. C'est la même chose, non ? François se dit que ce n'est pas la même chose. Là, il risque de se faire prendre. Et puis l'Amérique, ce n'est pas l'Europe. Ils vont lui demander, là-bas, la carte. Ils vont s'apercevoir que ce n'est pas lui. Et qu'il est recherché pour meurtre. Et bien d'autres choses aussi. Philippe lui dit, alors, qu'est-ce que tu décides ? François lui dit, je ne peux pas accepter. Philippe de Guerlas lui dit, bon, fais comme tu voudras. Philippe commande les billets d'avion, ferme la maison. Les domestiques sont renvoyés et ils quittent Biarritz avec leurs bagages. Ils partent en voiture pour aller à Paris parce qu'il n'y a plus que l'aéroport de Roissy pour les avions pour l'Amérique. Le trajet se fait tristement. Philippe a envie de pleurer. Il y a peu de monde sur les routes. Philippe, après 4 heures de route, il fait déjà nuit. Il a arrêté sa voiture en rase campagne. Je vais pisser. Il sort de voiture. Il se met sur le bord de la route, près d'une haie, de champs. Le coin est désert, pas de circulation. Il sent un grand coup à la tête. Oh ! Il voit tout tourner. Blanc. Rouge, noir. Ah. Et toute la tête est tombée, la tête la première, le sang coule. Et dégouline de son crâne sur le visage. Il est tombé la tête en avant. François lâche sa clé à molette à terre. Il est essoufflé, triste, très triste. Il n'a pas pu faire autrement. Puis il se penche sur le corps, lui fait les poches. Il prend sa carte et ses clés. Puis, avec une pince coupante, Il coupe les pousses, qu'il met dans une boîte en métal de cigares. C'est plein de sang. Jette la pince coupante qui a servi à faire ça. Pousse le corps dans le fossé. Va au coffre de la voiture prendre un bidon d'essence et l'asperge, le cadavre pour y mettre le feu. Jette ses gants dans le feu et les outils. L'asperger de telle sorte les vêtements qu'ils prêtent bien. Puis, il va vers la voiture. Et file avec sa nouvelle identité. File vers Paris. Et sur la route qui le mène à Paris, il se dit qu'il vient de faire une grosse bêtise. Il n'a pas assez réfléchi comme toujours. À quoi cela lui sert-il de tuer son ami? Il peut prendre son identité en Amérique, on va s'inquiéter qu'ils ne soient pas arrivés, on va faire une enquête, on va savoir qu'il est parti avec un jeune homme, un dénommé Christian. Au bout d'un moment, la police va enquêter tout le long du parcours qui mène à Paris, mais là, ils vont apprendre qu'on a retrouvé un corps non identifié. On va faire le rapprochement. Ils vont plus chercher sur le compagnon de voyage, Christian. Ce prénom vont lui rappeler l'affaire du cadavre de la villa, etc. Les deux affaires vont se rejoindre. On va peut-être faire des recherches dans la villa et trouver peut-être l'ADN, même du super ADN de François. De toute façon, dans une semaine ou plus, François ne pourra plus se servir de la carte de Philippe. Que faire ? Il se dit qu'à Paris, il n'est recherché que pour des choses sans importance, comme des dettes, et peut-être plus ou moins gigolo, gentil, presque rien. Il arrive à Paris et décide, et pendant une semaine, c'est de se servir de la carte de Philippe pour s'acheter une garde-robe, aller à l'hôtel, et payer l'hôtel avec la sienne. Il trouve un hôtel, l'hôtel des ambassadeurs Boulevard Haussmann. Fait des achats. Comme c'est des achats de vêtements, chemises, produits de beauté, on lui demande que sa carte et non des empreintes du pouce. Se fait faire une belle garde-robe chez Pierre Cardin et dit que c'est urgent, puis attend, se détend un peu, et voit que personne ne cherche, ne le recherche. Lui ne se fait pas remarquer. Il lit dans les journaux qu'il n'y a rien de nouveau. Il se dit que l'affaire de Christian doit piétiner. Et celle de Philippe n'a pas encore commencé. Une fois qu'il a sa garde-robe, il décide c'est d'être François. de redevenir François. Alors, je vais mettre ces vêtements neufs dans une valise qui va déposer à la consigne de la gare de Lyon. Puis quitte l'hôtel. Il s'habille dans une allée d'un immeuble délabré de Hard qu'il a trouvé dans une poubelle. Il reste le visage et le corps propre. À 21h, il va sonner à l'interphone de Judith. Oui, c'est moi, François. François, oui, c'est moi, tu peux me recevoir. Entre. La tante déclique de la porte et entre. Va à l'ascenseur. Qui monte à l'étage, puis la porte s'ouvre. C'est elle. Et ta robe d'intérieur, légère, bouffante, transparente. On voit qu'elle est nue dessous. La robe est blanche. Les cheveux roux tombants. Elle est magnifique. Les cheveux roux et blonds ont un côté éblouissant. Il lui fait « Bonsoir » et lui dit « Entre ». Il entre, elle ferme la porte. Elle lui dit furieuse, t'en as du culot de venir comme ça, après une si longue absence. Hé, tu ne m'as rien dit. Je suis furieuse contre toi. Elle répond, un peu triste, avec son côté boudeur et bébé. Je pouvais pas faire autrement. J'avais plein de dettes. Et puis, j'ai paniqué et je me suis caché. Je suis allé me cacher dans des ruelles de Paris, merdiques. Couché où je pouvais, j'ai risqué la mort. De nombreuses fois, on a même failli me fusiller. Et j'ai mangé des rats. C'était horrible, tu sais. Elle le voit. Toute l'air triste. Habillée de hardes. De hardes horribles. On dirait un merveilleux petit mendiant de je ne sais trop quel peintre de la Renaissance. Ça l'émeut. Elle lui demande. Et pourquoi est-ce que tu m'as pas demandé de l'aide? Il lui répond. Oh, t'as déjà fait beaucoup pour moi. Et puis j'avais honte de te dire toutes les dettes que j'avais faites. Mais maintenant, j'en peux plus. Je suis à bout. Elle est déjà sous son charme. Comment ne peut-on pas être sous le charme de ce petit jeune homme, si charmant, en guenille. Elle ne se rend pas compte qu'il est comme un, disons, comme un mendiant d'opérette à la Offenbach. Elle ne voit pas, parce qu'elle est prise par lui. Elle le regarde avec des yeux suppliants. Thank you. il semble, s'affaisser. Elle le retient, elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « Je crois que c'est la faim. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Oh mon petit chéri, et moi qui te vais parler ?» Je ne voyais pas que tu avais besoin de soins. Viens. Elle le mène à la salle à manger. Le fait asseoir. Je vais chercher quelque chose à manger. Et elle le laisse. Il sait qu'il a gagné. Elle revient. Avec une tranche de viande et des petits pois. Après avoir mis le couvert, elle s'assoit en face de lui. Il mange de bon appétit, comme les jeunes. Elle lui dit, je vais t'aider, tu veux? Nous allons te payer tes dettes, et puis, décidément, t'es harde. Je vais t'acheter des vêtements. Elle est heureuse. Elle a bien entendu Serge, mais c'est pas la même chose. Elle sait que malheureusement, pour lui, ces choses, ces jours sont comptés. Elle lui dit, tu as couché cette nuit ici. Il lui fait, merci. Après le repas, qui a été obligé, c'est de tout manger, c'est ce qu'il lui a offert, il n'en peut plus. Il lui dit, je vais me coucher, prends une douche, ces vêtements, demain je t'en achèterai d'autres. Et il est allé se coucher, elle le laisse dormir seul. Lui aurait bien aimé, mais comme il a joué le jeune homme déprimé, le lendemain, elle est allée lui acheter des vêtements pour lui et il est resté nu dans le lit en attendant. Il se sent comme un coq en pâte et aimerait que ça durât toujours comme ça. Elle est revenue avec ses vêtements propre et neuf. Une fois habillée, elle lui dit, faut combien pour payer tes dettes? Il lui dit, je ne sais plus. Bon, je te mets une somme d'hommes sur ton compte. Tu resteras quelque temps avec moi. Mais n'oublie pas de payer tes dettes. Il saute au cou et lui dit, merci. Et il redevient Monsieur Bébé, François Bébé. Ils restent quelque temps chez elle, reprennent leur jeu d'amour, et redevenus foufou, dansent dans l'appartement, se trémoussent comme une anguille au rythme de la musique, même en mettant la table. Lorsqu'elle a son travail la journée, il reste chez elle à lire. Il adore lire et se détendre. Il veut oublier ce gentil Philippe qui a tué pour rien. le pauvre. Lisons-nous pour voir ses enquêtes, pour voir ses affaires. La police n'a pas fait de rapprochement entre les deux crimes. On a retrouvé le corps du pauvre Philippe. On l'a reconnu grâce à ce satané ADN+. De la façon dont il a été mutilé, les pouces coupées, on pense qu'on a dû le tuer pour son argent. Voler sa carte. On recherche ce jeune homme. Portrait robot, à peu près ressemblant. Le prénommé Christian, non, rien. La police a vu que l'on s'est servi de la carte pour acheter des vêtements, des cadeaux. Enquête, on lui dit que c'est un jeune homme, rien de plus. On ne sait rien de plus. Puis, un soir, en dînant dans la salle à manger avec Judith, il lui dit « Je crois, ce qui serait bien, c'est que je retourne vivre à l'hôtel. » Il lui dit « Oui, ça te permettra de retrouver ta vie. Et puis, je vais être très prise. Mais tu peux revenir quand tu voudras. Je te le promets. Tu es celle que j'aime le plus au monde. » Il l'embrasse sous la joue. Le lendemain, il a fait sa valise et retourné à l'hôtel. Il retourne à l'hôtel Place de l'Étoile. Il n'a pas fait d'histoire parce qu'il a payé ce qu'il devait. Puis on a l'habitude avec les fils de famille. Il a récupéré ses vêtements et sa carte à lui. Il reprend sa vie comme avant. Va souvent voir Judith. Passe ses journées à lire dans les salons de thé. Hall de luxe, jardin public, champ de course, etc. Pour se faire des rencontres, pour se faire payer à manger et autres, même pour des petits suppléments financiers. Il est redevenu le jeune que les gens de tout âge et tout sexe aiment. Continue à aider, et encore l'argent, des bijoux. Judith, elle, est très prise entre son travail, les affaires à préparer. Serge, son père, voir plus tard, et cette soleil, il n'y a pas beaucoup de temps à elle, et le peu de temps qui lui reste, c'est pour François. Soir, qui est au salon, il demande à Judith « Moi, c'est travailler. Est-ce que tu peux me faire entrer dans ton groupe ?» Elle lui dit « Tu sais bien que pour le moment, c'est impossible. Et puis, tu n'as pas de diplôme de spécialité. C'est un gros handicap parce qu'ils ne prennent que des spécialistes. Si te prenais, ce serait que pour faire manœuvre sur un chantier. Je te propose, c'est de prendre des cours pour avoir un diplôme. » Il lui dit, des cours de quoi? Je ne sais rien. Elle lui fait, commence par le début. Prends des cours de rattrapage. Il lui dit, tu me vois aller à l'école? Elle lui fait, prends des cours par internet. C'est ce qu'il fait. Il a acheté un ordinateur et inscrit à une école Pontois Plus, celle qui s'occupe de rattraper les gens. La journée, il étudie comme ça dans sa chambre. Judith joue avec lui comme avec un baigneur. Elle le lave même. Lui seul espère c'est son métier. Il a distrait comme ça. Il a fait danser, jouer, fanfaronne. Pour l'amour, enfin, l'acte qui s'appelle comme ça, il est celui qui n'est pas actif. C'est elle qui fait tout. Et il se laisse faire. Ils vont de temps en temps des soirées. Elle accepte qu'il y aille parce qu'il sait qu'il est apprécié des gens, parce qu'il les fait rire, et bien de l'ambiance à la soirée. À une soirée, il entend derrière lui Christian. On lui tape à l'épaule. Il se retourne, surpris qu'on l'appelle comme ça. Et là, il voit Gilles et qui est à côté de lui, Frédéric. Gilles lui dit, alors, on ne dit pas bonjour à ses amis ? François lui fait, si. Gilles lui demande, comment vas-tu ? Ça va, merci. Gilles lui demande, et ton ami ? Ah oui, c'est vrai. J'ai appris. Je suis un vrai, mon vieux. Mort d'un coup, d'une façon si étrange. François se sent gêné. Et voit que les ennuis risquent de venir. Faudrait qu'il fasse quelque chose. Tout d'un coup, il entend. François ! C'est Judith. Elle va à eux et dit, François, mon chéri, il faut que j'aille au salon du haut discuter avec un client. Ne te fais pas de soucis, mon chéri. Ça ne va pas ? Tu es bizarre. Mon François, elle l'embrasse sur les lèvres. Une fois qu'elle est partie, Gilles demande, tu as changé de nom pour draguer les femmes? À moins que... Mais oui, tu es enfin des nôtres. Tu sais que tu es un surhomme. Tu as compris. Félicitations. Oui, je comprends. L'histoire de Philippe. Félicitations, mon vieux. Ah, tu es comme nous et tu le sais. François ne comprend pas, mais il a sûrement peur que l'autre le dénonce. Je lui dis, ne fais pas de soucis, on ne dit rien. Et tu nous rends un petit service. Tu vois la fille là-bas, c'est Carole Barche. Elle ressemble à Judith, rousse et tout. C'est la belle-mère de Frédéric. Tu la séduis, l'amènes en race campagne, en voiture, et tu la violes. François lui demande pourquoi, ou tu dis pour rien, pour rire. Tu lui craches dessus pour rigoler. C'est une salope qui a humilié le pauvre Frédéric. François lui dit, c'est impossible, elle va me dénoncer. J'ai lui dit, elle n'osera pas. Elle aura beaucoup trop peur des fureurs du frère de Frédéric, Eric. Il est très violent, jaloux, c'est sa maîtresse. Vas-y. Bon, mais Je lui dis, tu fais pas de soucis, là on va s'occuper d'Eric. Pendant que toi tu t'occupes de la fille. Vas-y. Oui, Frédéric, on va là. Et il le laisse. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.